Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On retrouve aujourd'hui dans Milkshaker Julie Faurillon. Julie est sage-femme et consultante en lactation IBCLC dans des contrées normandes. Aujourd'hui, avec elle, on va parler allaitement et fertilité. Nous avions déjà un peu abordé le sujet dans l'épisode 55, mais suite au témoignage de Louise dans l'épisode 77, on s'est dit que cela méritait quelques précisions pour bien comprendre tous les mécanismes en jeu et que vous puissiez savoir où vous en êtes. Donc dans cet épisode, Julie va nous expliquer toutes les phases qu'une femme qui allait peut traverser jusqu'à retrouver 100% de sa fertilité. On va aussi se demander s'il y a des choses qui peuvent nous aiguiller pour savoir dans quelle phase on se trouve et qu'est-ce qu'on peut entreprendre côté allaitement pour maximiser nos chances. Il n'y a pas ici de recette miracle, mais la promesse de la compréhension de vos cycles et éventuellement l'observation de votre corps et de certains signes qui peuvent vous aider à définir où vous en êtes physiologiquement pour lancer le bébé suivant. Dans cet épisode, on ne parlera que de l'impact de l'allaitement sur votre fertilité, mais n'oubliez jamais qu'il ne représente qu'un seul des nombreux facteurs qui peuvent influer sur vos possibilités de conception. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Julie.
Bonjour Charlotte.
Re-bienvenue dans Milkshaker.
Merci.
Vous connaissez déjà Julie, vous l'avez déjà entendu parler dans un épisode témoignage et puis on avait fait un épisode ensemble sur plein de petits sujets différents dont l'allaitement et la grossesse, l'allaitement, le parcours de PMA, la contraception, etc. Et on se retrouve aujourd'hui parce qu'on voulait justement apporter quelques précisions sur l'allaitement et la conception de l'enfant suivant. Donc en gros l'allaitement et la fertilité, comment l'allaitement vient influer sur votre fertilité. Et on s'est dit voilà suite à un épisode témoignage qui sera passé précédemment que ça méritait quelques précisions pour que ce soit plus clair pour vous. Je vous spoil, on ne pourra pas vous dire exactement au bout de combien de temps vous êtes parfaitement fertile, mais on va pouvoir vous aider à comprendre les différentes phases qui se mettent en place et aussi comment vous surveiller, vous auto-surveiller pour vous rendre compte de là où vous en êtes. Donc, Julie, déjà, est-ce qu'on peut reprendre un peu à la base et se dire que, bon, là, on vient d'accoucher, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la première phase qu'on rencontre quand on vient d'accoucher et qu'on allaite?
Grosso modo, le fait d'allaiter et d'être bourré de prolactine pour l'allaitement bloque l'ovulation et bloque le cycle en général. Et donc, on est dans un stade qu'on appelle l'aménorrhée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de règles et donc pas de cycle. Et c'est ce sur quoi est basée la fameuse méthode MAMA dont on avait parlé au précédent épisode, la méthode de l'aménorrhée lactationnelle. Et donc, on n'a pas de cycle, on est infertile le temps qu'on est dans cette phase d'aménorrhée complète.
Ok, donc, et si on n'allaite pas, qu'est-ce que ça donne?
Ça donne...
C'est quoi la différence?
C'est que quand on n'allaite pas, on n'est pas soumis aux mêmes hormones puisqu'on ne fabrique pas de lait, on n'a pas besoin de prolactine. Notre corps comprend qu'il n'y a pas d'enfant à nourrir, s'arrête de produire de la prolactine et retourne à un état normal, disons, comme avant la grossesse. Et donc, on n'a pas d'aménorrhée aussi longue quand on allaite, et on a un retour de couche beaucoup plus précoce lorsqu'on n'allaite pas que lorsqu'on allaite.
Ok, c'est dans quel délai quand on n'allaite pas le retour de couche?
Alors c'est assez variable d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre, toujours c'est question de retour de couche et d'hormones, mais ça peut être, on devient de nouveau fertile dans les 3 semaines à 1 mois qui suivent l'accouchement.
Ok, très bien. Oui, avec du coup des règles qui reviennent 1 mois et demi après, 2 mois.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en suite de couche à la maternité, si vous n'allaitez pas, et même si vous allaitez d'ailleurs et que vous voulez reprendre un moyen de contraception, on vous conseillera de le reprendre dans les 3 semaines qui suivent l'accouchement.
D'accord. Donc, si j'allaite et que je respecte la méthode MAMA, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce que c'est que la méthode MAMA, toutes les choses qu'il faut respecter pour rentrer dans le cadre?
Oui, bien sûr. Alors déjà, la méthode MAMA, c'est si votre bébé a moins de 6 mois, si vous n'avez pas eu de retour de couche, donc pas de nouveau vos règles depuis l'accouchement, si vous allaitez exclusivement, qu'il n'y ait pas de mixte, pas d'introduction de biberon et pas de diversification alimentaire.
Oui, et même pas de biberon de lait maternel, en fait, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Aussi. C'est que, alors, on peut avoir des biberons de lait maternel, mais si les biberons sont compensés par un tirage au moment où ils sont donnés.
D'accord.
Pour qu'il y ait suffisamment, alors ça fait partie aussi des critères, qui est minimum 6 à 8 tétés par 24 heures, ou l'équivalent de 6 à 8 tétés, donc qui est des tirages compensatoires s'il y a une tétée en moins, et qui est moins de 4 heures entre 2 tétés le jour et moins de 6 heures la nuit.
Ok, donc en fait, ça s'applique autant à une maman qui allaite au sein qu'à une maman qui tire à l'aide. Une maman qui tire à l'aide, si elle respecte ces délais-là de tirage,
oui,
ça va fonctionner aussi.
Oui. Parce que tout est basé effectivement sur la production de prolactine et les pics de prolactine dans la journée. Donc qu'on a également, tant qu'on produit du lait et qu'on a les mêmes délais qu'au sein, ce qui est le cas quand on a un nourrisson de moins de 6 mois et qu'on tire à l'aide exclusivement, en général on n'a pas beaucoup plus que 4 heures entre 2 tirages la journée et pas beaucoup plus que 6 la nuit non plus. Puisqu'on suit le rythme de faim et de besoin de l'enfant et que à cet âge-là, c'est grosso modo ce dont il a besoin.
Ok, donc j'allaite exclusivement ou je tire allaite exclusivement. J'ai un intervalle de moins de 4 heures la journée, moins de 6 heures la nuit entre les tétés ou les tirages. Je fais pas de mixte, donc ça va avec l'exclusif.
Mon enfant a moins de 6 mois.
Voilà, mon enfant a moins de 6 mois.
Et je n'ai pas eu de retour de couche.
Et je n'ai pas eu de retour de couche. Ça, c'est quand la mama, elle est respectée. Ça peut durer maximum 6 mois.
C'est ça.
Vous êtes a priori sûr que...
C'est ça. Il y a, comme tous les moyens de contraception, il y a un pourcentage d'erreurs admis, disons. Mais quand on respecte tous ces critères-là, ce pourcentage-là est quand même très faible. Et c'est plutôt fiable dans les 6 premiers mois et si on s'en tient scrupuleusement aux critères pour que ça soit efficace. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs études qui ont été menées de grande envergure à la fois sur les pays développés, les pays en voie de développement, et que cette méthode de la mama, elle a été prouvée comme plus efficace dans les pays sous-développés et l'aménorrhée plus longue dans les pays sous-développés que dans les pays développés, ce qui pourrait faire penser qu'il y a une grosse influence environnementale sur nos cycles et sur notre fertilité selon l'environnement dans lequel on vit. Il y a plusieurs pistes qui pourraient faire croire, enfin, qui pourraient faire penser entre autres aux perturbateurs endocriniens et aux diverses ondes auxquelles on peut être exposé dans nos contrées européennes développées et surdéveloppées par rapport aux pays, par exemple, d'Afrique où l'aménorrhée suite à l'accouchement et pendant l'allaitement est en général plus longue et le retour à une fertilité normale, disons, est plus tardive que dans nos pays développés, en fait.
Bien, tout compris. Donc, une fois qu'on en est là, donc on a compris cette première phase où en fait on est en aménorrhée, il n'y a pas d'ovulation, donc pas de fécondation possible, il n'y a pas de règles non plus. Une fois que qu'on a passé cette phase-là, et qui peut durer moins de 6 mois si on ne respecte pas tous les critères là en question de la mama, si on a, je sais pas, moi, un bébé qui fait rapidement ses nuits et qui du coup laisse des intervalles longs, etc. Quelle est la phase d'après qui se passe quand on allaite?
Alors, il faut savoir que le retour à la fertilité normale, donc avec ovulation complète, enfin avec un cycle complet, ovulation et phase du cycle respectée au complet, peut se faire en plusieurs étapes qui ne sont pas forcément présentes chez toutes les femmes. La longueur des étapes peut différer d'une femme à l'autre et d'un moment de la vie à l'autre, c'est-à-dire que la façon dont ça se déroule entre un premier et un deuxième enfant ne sera pas la même forcément entre un deuxième et un troisième enfant pour une même femme. Et donc ces étapes-là, elles sont à titre indicatif et on passe pas forcément toutes par ces étapes-là et par des étapes plus ou moins longues. Tout dépend en fait de notre cycle de base et de plein de choses et très probablement aussi de l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a plusieurs
Ok, donc là
étapes.
tu vas nous parler des cycles. Peut-être rappelons ce que c'est un cycle normal pour qu'on reconnaisse les mots et que ce soit simple pour tout le monde, parce que là on rentre dans des trucs un peu. On va parler d'hormones et tout ça, c'est pas forcément
Exactement.
l'élément préféré.
Quand on n'allaite pas et en dehors d'une grossesse, un cycle, grosso modo, est admis pour durer environ 28 jours. Encore une fois, c'est variable d'une femme à une autre. Et se passe en deux étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la phase folliculaire, qui est sous l'influence des œstrogènes et qui est là, en gros, la sélection de plusieurs follicules au niveau de l'ovaire qui vont tous se préparer à produire plus ou moins un ovule. C'est le plus gros qui va gagner et celui de meilleure qualité pendant les 14 premiers jours du cycle, grosso modo. Encore une fois, c'est à titre indicatif, tout le monde n'ovule pas à J14 et tout le monde n'a pas un cycle de 28 jours, mais
Ouais. Mais là, on va
en
partir du principe
théorie.
que sur un cycle de 28 jours, ça donnerait ça. Et après, il y a des
Voilà.
variations interpersonnelles.
Donc, pendant les 14 premiers jours du cycle, les ovaires préparent plusieurs follicules susceptibles d'émettre un ovule. Puis, sous l'influence de plusieurs hormones et entre autres suite à un pic de LH, l'ovocyte le plus prêt et le mieux formé est relâché par un des follicules qui avait été amené à maturation. À J14, on parle d'ovulation et donc l'ovule ensuite est émis par l'ovaire et va rejoindre la trompe pour éventuellement rencontrer un spermatozoïde conduire à une grossesse. Pendant la deuxième partie du cycle, donc en post-ovulation, les 14 derniers jours, on appelle ça la phase lutéale, qui est, elle, sous l'influence de la progestérone principalement. Le follicule qui a émis l'ovule va devenir le corps jaune, qui sera les prémices, grosso modo, d'un placenta éventuel, enfin, au niveau fonction, remplira les premières fonctions de soutien de la grossesse s'il y a fécondation entre l'ovule qui a été émis et un spermatozoïde. Le corps se prépare à accueillir une grossesse et un ovule fécondé. Et donc, tout est dirigé vers le soutien de cette future grossesse avec progestérone au plafond et endomètre bien douillet pour pouvoir accueillir une grossesse fécondée. S'il n'y a pas de fécondation et que il n'y a pas d'implantation d'une grossesse au niveau de l'endomètre, cet endomètre va s'auto-détruire entre guillemets et on va avoir les règles. Qui sont ni plus ni moins que l'effondrement des différentes hormones et notamment de la progestérone qui n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas de grossesse et donc l'écoulement des cellules de l'endomètre au sein de la cavité utérine, ce qui donne des saignements et qu'on appelle les règles, aux environs du 28e jour du cycle.
Ouais, si c'est un cycle de 28 jours. Ok, donc... Une fois qu'on a passé la phase où on ovule pas, parce qu'en fait la prolactine est au plafond et que elle met un peu toutes les hormones sexuelles au stand-by.
C'est ça. Ce qui est le principe d'ailleurs d'une contraception, c'est que pour éviter de tomber enceinte, on n'a pas trouvé de meilleure façon pour faire comprendre au corps qu'il ne fallait pas tomber de nouveau enceinte que de lui faire croire qu'une grossesse était en cours. Donc en fait, la contraception, c'est l'imitation hormonale d'une grossesse pour que les ovaires soient mis au repos et qu'il n'y ait pas de nouvelles ovulations. Okay. Donc une fois passée cette aménorrhée et cette infertilité due à un repos forcé des ovaires, parce que la prolactine est effectivement au plafond dans la première période post-accouchement, avec l'installation pérenne d'un allaitement, en fait, la prolactine baisse un peu parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir autant en seuil constant. Il y a des pics de prolactine au moment où on produit du lait, mais le seuil, la concentration de base n'est plus la même et baisse un tout petit peu, ce qui permet aux ovaires de reprendre leur fonction au moins en partie et de reproduire des cycles. Parce que les œstrogènes et la progestérone sont de nouveau effectifs. Dans une première partie, dans un premier temps, les cycles vont être plutôt anovulatoires, c'est-à-dire qu'il va y avoir mise en route d'un cycle, mais il n'y aura pas ce fameux pic de LH qui va déclencher l'ovulation. On va avoir tout ce temps de préparation de phase folliculaire où les ovaires vont se préparer à ovuler. On va avoir sélection de plusieurs follicules qui vont se préparer pour pouvoir pondre un ovule. Et finalement, il n'y aura pas le pic, ce qui doit vraiment être un pic, parce que si c'est un seuil constant, ça ne fonctionne pas. Si il n'y a pas de pic de LH et qui passe au-delà d'une valeur seuil, il n'y aura pas d'ovulation et donc pas de fécondation possible.
Ok, donc ce pic de LH, il est rendu possible si en fait la fréquence des TT baisse et que du coup le seuil de prolactine baisse lui aussi, c'est ça ?
C'est ça. Encore une fois, on n'a aucune idée de quelle valeur seuil va permettre ce pic de LH et on ne sait pas non plus, pour une femme donnée et d'une femme à une autre, la valeur seuil de prolactine ne sera pas la même le nombre de TT, l'écart entre les TT ne sera pas le même d'une femme à une autre non plus. Donc, on n'a aucun moyen de savoir combien de temps ça va durer, cette phase où il y aura des cycles, mais qui ne seront pas ovulatoires, ni si ça va exister d'une femme à une autre ou pas.
Ouais, donc en tout cas, on ne peut pas faire de généralité sur ça. Mais
non.
Par contre, on passe éventuellement par toutes ces phases.
Ouais.
Ok, donc là, phase non ovulatoire, les follicules se préparent, il y a un ovule dedans, mais...
Mais il n'est jamais relâché, il n'y a pas d'expulsion d'ovule parce qu'il n'y a pas ce fameux pic de LH qui permet de dire là c'est bon, on a suffisamment préparé les follicules, il y en a un qui est prêt et on relâche un ovule qui sera de bonne qualité et à bonne maturité avec ce pic de LH.
Ok, et cette phase-là peut avoir lieu, ne pas avoir lieu, et si elle a lieu, durer plus ou moins longtemps d'une femme à l'autre.
Exactement. Le nombre de cycles concernés par cette phase-là, et s'il y en aura ou pas, on ne peut pas le prédire.
Ok. Une fois qu'on a passé cette phase-là, où il n'y a pas d'ovulation, j'imagine que l'ovulation revient.
Oui, exactement. On passe à des cycles qui sont de nouveau ovulatoires, mais avec une phase lutéale qui n'est pas forcément appropriée pour permettre l'implantation d'une grossesse et que l'ovule qui a été émis soit d'une fécondée et de deux implantée s'il est fécondé et retenu dans l'endomètre de manière pérenne pour donner lieu à une grossesse ensuite. Donc on
oui,
a...
parce qu'on peut très bien ovuler, avoir un ovule qui est fécondé, mais ce qui est très important, c'est la nidation. Et la nidation, elle se fait dans un endomètre qui est prêt. Et si la phase lutéale, on a dit que c'était la deuxième phase du cycle, qui dure en moyenne, là, 14 jours aussi, elle n'est pas assez longue ou pas assez bien fournie, on va dire, en hormones, alors elle va être problématique elle aussi.
Exactement.
On féconde, mais on ne fait pas de nidation.
Exactement. Et c'est un des problèmes de fertilité qu'on peut avoir en dehors de la période post-accouchement. Y a des femmes qui ovulent de manière normale, mais qui ont des phases lutéales trop courtes ou pas assez chargées en progestérone pour pouvoir permettre une nidation de bonne qualité et qu'une grossesse reste implantée dans l'endomètre. Et donc cette phase-là, avec une phase lutéale soit un peu courte, soit un peu pauvre en progestérone, parce que petit rappel de l'épisode précédent, la progestérone c'est l'amie de la grossesse, la prolactine c'est l'amie de la lactation, et toutes les deux sont antagonistes. Donc plus il y a de prolactine, moins il y a de progestérone, et inversement. Et donc quand on est en post-accouchement avec une prolactine toujours assez élevé pour pouvoir permettre une lactation, il se peut que parfois la progestérone soit insuffisante pour permettre une phase lutéale suffisamment longue et de bonne qualité pour qu'il y ait nidation d'une grossesse éventuelle.
Ouais, donc c'est toujours l'histoire de cette prolactine qui est plus ou moins présente et à un seuil tel que chez telle ou telle femme, ça ne va pas faire forcément la même chose.
Exactement.
Ok, donc... bien, donc là, fécondation possible, mais nidation impossible, donc bon, le résultat égale quand même pas de grossesse. Toujours pareil, cette phase-là dure plus ou moins longtemps d'une femme à l'autre et chez une même femme peut être d'une durée différente
d'un postpartum à un autre.
D'un post, voilà, et peut aussi ne pas avoir lieu du tout.
Exactement, on peut très bien passer par toutes ces phases où on a d'abord une aménorrhée complète, puis des règles sans ovulation, puis une ovulation sans phase lutéale efficace, puis un retour complet à une fertilité normale, tout comme on peut très bien squeezer toutes les étapes et passer de on-off à pas du tout de cycle à des cycles efficaces, tout comme on peut avoir la première étape et la troisième, mais pas la deuxième, enfin tout dépend des femmes, tout dépend de leur sensibilité à la prolactine et au seuil déclencheur pour un cycle complet. Et puis, tout dépend d'un postpartum à l'autre. C'est évidemment pas la même chose, puisque avec les années, le corps change et que notre fonctionnement est très dépendant de plein de choses et pas seulement de l'allaitement. C'est un des facteurs qui peut influencer le cycle et la fertilité, mais c'est pas le seul. On l'a vu avec l'influence environnementale sur la fertilité, et ça est une des réponses possibles.
Ouais, y a plein de raisons de faire varier la fertilité. Si c'était aussi simple que juste l'allaitement, ça se saurait. Et d'ailleurs, il y aurait moins de parcours PMA sur des
Exactement.
premières grossesses, etc. Et puis voilà, pour illustrer tout ça, bah, je pense qu'on a tous, dans notre entourage plus ou moins large, mais une histoire d'une femme qui est retombée enceinte extrêmement rapidement, en allaitant, qui, au bout de 2, 3 mois, fait un retour de couche alors qu'elle allaitait exclusivement. Il suffit qu'il y ait eu un écart à un moment entre des tétés, et puis chez elle, c'est venu déclencher quelque chose, et elle a passé toutes les phases d'un coup. Elle est enceinte, elle nous fait ce qu'on appelle un bébé retour de couche, là, on appelle ça. Et puis, on verra celle.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui a pas eu de règles pendant 2 ans alors qu'elle allaitait son bébé matin et soir, quoi. Donc,
Exactement. Tout comme en dehors de tout
tout ça.
allaitement, on a toute une fertilité qui est très variable et où certaines vont avoir un moyen de contraception très efficace et réussir à tomber enceinte malgré ce moyen de contraception dans des limites d'utilisation qui sont celles recommandées et qui vont quand même tomber enceinte, qui feront partie de ce petit pourcentage d'erreurs. Et puis il y en a d'autres qui n'auront aucun moyen de contraception, qui auront une fertilité plus limitées et qui devront parfois même passer par la PMA alors qu'elles ont des cycles de 28 jours, elles ovulent au J14 et parfois c'est incompréhensible le pourquoi du comment, mais toujours est-il qu'on a toute une fertilité qui est très variable d'une femme à une autre et au sein de notre vie, tout comme il y a aussi des patientes qui ont recours à une PMA pour une première grossesse, qui n'ont jamais réussi à tomber enceinte toute seule avant leur
Exactement.
Première grossesse et qui retombent enceinte spontanément après une PMA, sans qu'on sache vraiment pourquoi et sans avoir recours à la PMA pour la deuxième.
Voilà, tout ça pour vous dire que la fertilité, c'est un vaste sujet et que là, on fait le focus du point de vue de l'allaitement, mais qu'il n'y a évidemment pas que ça qui influe. Ok, donc là, on a bien décrit toutes les phases, je pense que c'est assez clair. Donc cette phase où on n'ovule pas et qu'il n'y a pas de phase, il n'y a pas de phase folliculaire en fait dans la toute
Non.
première phase. Hein. Non,
Non,
y a rien
parce
du
que
tout.
les œstrogènes sont aussi bloqués et donc il n'y a pas de cycle en fait. C'est comme si on était encore enceinte et que les ovaires étaient mis complètement au repos.
Ok, mais donc cette phase ovaire au repos, puis cette phase folliculaire sans relâchement de l'ovule dans la trompe et dans l'utérus. Donc, toujours rien de possible. Puis, la phase éventuellement où l'ovule est relâché, il peut être fécondé, mais la phase lutéale, la deuxième partie du cycle, n'est pas assez puissante, on va dire, ou pas assez longue pour que l'ovule puisse s'implanter, fécondé puisse s'implanter correctement dans l'endomètre. Et après, retour à la fertilité. Je rappelle que vous pouvez passer par toutes ces phases, les unes après les autres. Vous pouvez en faire juste une, la première, la dernière, celle du milieu, peu importe. Et vous pouvez aussi n'en faire aucune.
Tout à fait.
Donc du coup, à la question, dois-je sevrer complètement mon bébé pour concevoir un autre enfant?
On ne sait pas.
On
Et
ne
non.
sait pas, c'est dépendant de chaque femme.
C'est ça, on
Et
peut pas
maintenant,
ça.
Du coup, je vais te demander, est-ce qu'on a quand même des moyens de savoir individuellement comment s'orienter pour savoir dans quelle phase on est?
Bien sûr, tout comme on a moyen de savoir en dehors de toute contraception où on en est de notre cycle et en dehors de l'allaitement aussi, il y a des signes qui montrent qu'on est dans telle ou telle phase du cycle et si on est ou pas fertile et apte à concevoir. Il y a d'abord ce qu'on appelle la courbe ménothermique ou courbe de température. On peut prendre sa température tous les jours et alors dans les mêmes conditions, avant de se lever, à la même heure, au lever, enfin au réveil. S'il y a un décalage à un moment donné de la courbe de température, il va y avoir une augmentation assez importante et soudaine de la température, on sait qu'on a une ovulation, en gros, parce que cette augmentation de la température se fait au moment de l'ovulation. Donc il va y avoir deux
phases.
C'est
quoi comme augmentation de température ?
Alors c'est entre 0,3 et 0,5 degrés, en gros. Donc il faut avoir un thermomètre assez précis.
Ah oui, j'allais dire, il faut avoir un thermomètre fiable, parce que moi, celui que je mets sur le front de mon fils, par exemple, il peut me dire deux trucs différents en l'espace d'une minute. Donc,
C'est un thermomètre, alors il y a plein de marques qui en font, mais c'est en gros un thermomètre qui est à deux décimales, au centième de degré près, et où vous pouvez observer sur votre courbe. Alors il faut s'astreindre à prendre sa température toujours dans les mêmes conditions et de manière répétée tous les jours pour que ça soit fiable. Et c'est ce qu'on commence par demander aux femmes qui rentrent en parcours de PMA, c'est de faire cette courbe ménothermique pour avoir une idée de leur cycle et de savoir si elles ont une ovulation ou pas. Tous les jours, dans les mêmes conditions, avant de poser le pied par terre, juste en vous réveillant, et si possible tous les jours à la même heure, y compris le week-end, soit en buccal, soit en rectal, pour pouvoir avoir une température la plus fiable possible et de noter tous les jours cette fameuse température. Et sur plusieurs cycles, on voit si on observe ce décalage en milieu de cycle qui signifie qu'il y a une ovulation.
D'accord.
Donc ça,
Donc ça augmente au moment de l'ovulation et après ça reste haut, c'est ça ?
C'est ça. Et ça rechute au moment des règles.
Donc du coup, on va pouvoir savoir avec la température aussi le temps que dure la phase
Lutéale,
la deuxième phase du cycle.
Exactement.
La montée de température, elle se fait vraiment au moment où on ovule.
Exactement. Donc si, par exemple, une femme elle dit « oui, moi j'ai des cycles réguliers de 28 jours », ça ne veut pas dire que son cycle va être effectivement sur le schéma J14 l'ovulation et 14 jours de phase folliculaire, 14 jours de phase lutéale. On se rend compte avec cette courbe, par exemple, qu'il y a des femmes qui ont effectivement un cycle de 28 jours, mais qui ovulent soit trop tôt, dans le sens où du coup la phase folliculaire est un peu trop courte pour avoir des follicules de bonne qualité et des ovules de bonne qualité, et donc elles vont avoir des follicules trop petits, donc elles ovulent à J7 et après elles restent sur la phase lutéale plus longtemps, et puis d'autres qui vont avoir une phase folliculaire suffisante et ovuler par exemple à J21, mais avoir derrière une phase lutéale beaucoup trop courte pour que ça soit suffisant pour une implantation de grossesse. Et donc, on a toutes des cycles différents, et avoir un cycle qui fait 28 jours n'est pas la garantie d'avoir un cycle qui soit efficace, dans le sens où il peut conduire à une grossesse.
Ok, donc la température.
La température. Il y a aussi l'observation de la glaire cervicale, qui est encore une fois, c'est quand même, il faut être très à l'aise avec son corps et il faut, c'est quand même très précis comme méthode c'est très subtil parce que d'une femme à une autre, on va pas avoir exactement les mêmes observations et c'est quand même pas. Enfin, c'est pas un signal vert, c'est bon, rouge, c'est pas bon. C'est très fin comme observation et ça va peut-être prendre plusieurs cycles pour que vous fassiez bien la différence entre une glaire qui est pré-ovulatoire et une glaire qui est post-ovulatoire. Donc la glaire cervicale, c'est une matière qui est au sein du col de l'utérus, qui soit va faciliter la fécondation en facilitant le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus après un rapport, soit va au contraire plutôt bloquer le passage et ne pas être favorable à la survie des spermatozoïdes. Sachant que, grosso modo, un ovule, une fois qu'il a été émis par l'ovaire, va survivre entre 12 et 24 heures, grand maximum 48 heures de manière exceptionnelle, et que des spermatozoïdes, après un rapport, vont pas disparaître du jour au lendemain et vont être eux aussi viables. C'est entre, alors au minimum 24 heures, mais disons 3 bons jours, c'est possible. Les spermatozoïdes, 3 à 5 jours.
D'accord, ok.
Et donc, une fois que c'est pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'on a ovulé, même si on ovule à J14, et qu'on a un rapport à J14, ça ne veut pas dire que la rencontre entre ovocytes et spermatozoïdes se fait forcément à J14, et que donc au niveau des calculs de terme et de début de grossesse, ça varie aussi. Et donc cette glaire cervicale qui est soit facilitatrice pour les spermatozoïdes voire conductrice peut aussi ne pas l'être et être plutôt bloquante si elle est en première partie du cycle. Si on est en première partie du cycle et donc en pré-ovulatoire, cette glaire qui se retrouve au niveau du col mais aussi dans le vagin et qui s'écoule au niveau du vagin, on peut la tester entre ses doigts en gros.
C'est les pertes quoi.
C'est les pertes vaginales. En première partie de cycle, elle va être plutôt cassante et ne pas être suffisamment collante entre guillemets pour être un milieu de passage pour les spermatozoïdes. Et donc, si on la regarde au microscope, elle va être ce qu'on appelle cassante. Et si on la prend entre deux doigts, on va pas réussir à faire un filet en gros. Donc, il faut pouvoir toucher son corps, aller voir sa glaire et toucher sa glaire cervicale pour pouvoir voir comment elle est et de quelle qualité elle est. En période ovulatoire, cette glaire, elle va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus un peu collante entre les doigts. Si on la met entre deux doigts, on va réussir à écarter les doigts et qu'elle fasse un pont entre les deux doigts au niveau
devient gluante quoi.
Voilà, gluante
fluide et gluante.
C'est ça, au niveau du microscopique, ça va devenir un filet plus lâche que ce que c'était en première phase du cycle et donc pouvoir laisser passer les spermatozoïdes. D'accord. Et puis en phase post-ovulatoire, elle va rester facilitatrice comme ça, comme au moment de l'ovulation, pendant quelques jours pour que, par exemple, un rapport qui aurait lieu 2 ou 3 jours après l'ovulation soit encore possiblement fécondant pour que les spermatozoïdes soient conduits jusqu'au sein de l'utérus et de la trompe pour pouvoir rencontrer l'ovocyte qui aurait été émis dans les jours précédents au moment de l'ovulation. Okay. Et puis elle redevient impropre au passage des spermatozoïdes et de nouveau trop filante et voire cassante en phase lutéale sur la fin en fait.
Ok, donc du coup il faut capter en fait, bon, si on se sent de le faire, le moment où la glaire change de texture et qu'elle devient voilà cette espèce de filet là qui entre deux doigts, en fait joint les deux doigts, ça c'est fluide mais ça colle en même temps.
C'est
quoi.
Ça, c'est exactement. Ça il faut suffisamment faire d'observations quasiment tous les jours pour pouvoir effectivement capter le moment où cette glaire elle va devenir propice entre guillemets à une fécondation et à laisser passer les spermatozoïdes éventuels pour permettre une fécondation au sein de la trompe puis une nidation. Et donc il faut à mon avis, avoir suffisamment de retours, enfin d'expérience sur plusieurs cycles pour pouvoir voir ce moment où ça va changer, parce que c'est quand même très subtil et ténu comme changement, pour pouvoir l'expérimenter soi-même et vérifier que ça change effectivement de texture.
Ok, donc ça c'est nos deux moyens de voir, d'avoir des signes pour nous, température et glaire. Il y a d'autres choses?
On peut combiner les deux et faire une courbe ménothermique et observer sa glaire. On peut aussi observer les éventuels autres signes de cycle et donc les autres douleurs éventuelles, par exemple au niveau des seins. Les seins qui se tendent... ou des douleurs abdominales. Ça, en général, c'est plutôt en pré-règle, pour le coup, et juste avant l'apparition des règles, donc en toute fin de cycle. Et le tout combiné, éventuellement des traces de saignement, ça peut avoir lieu au moment de l'ovulation, il peut y avoir des petites traces de saignement, ou au moment de la nidation aussi. Tout ça combiné, à noter soit dans un carnet, soit il y a plein d'applis qui sont très bien faites pour ça, pour suivre votre cycle plutôt au naturel. Et en combinant tout ça et sur plusieurs cycles, vous pouvez avoir une idée de la fertilité que vous avez et où vous en êtes de la récupération d'une fertilité normale, disons.
Ok, et donc du coup, on comprend que la solution, entre guillemets, si par exemple demain, là, j'allaite plus, mais imaginons que j'allaite, j'essaie de regarder mes cycles et je me rends compte que la phase lutéale, elle n'a pas l'air assez longue, que ça n'a pas l'air super. Est-ce que c'est du coup utile dans ce cas-là de diminuer le nombre de TT?
Ça peut l'être, mais il n'y aura pas de valeur seuil sûre au-delà de laquelle on va récupérer une phase lutéale suffisamment longue, en fait. On ne va pas pouvoir, d'une, prédire si c'est vraiment utile de sevrer, parce que peut-être que... Alors oui, forcément...
C'est pas lié à ça, ouais.
Voilà. Forcément que ça sera forcément un plus si on est en allaitement exclusif et qu'on dit « je vais sevrer », forcément qu'il y a une chance de plus pour récupérer une fertilité normale. Mais il n'y a pas que ça qui influence la fertilité, d'une. Et si on est en désir de grossesse et qu'on allait toujours, il n'y a pas moyen de savoir à partir de quel nombre de TT, par exemple, ou de quel écart entre deux TT, on va récupérer une fertilité normale et repasser à un cycle avec deux phases équivalentes entre la phase lutéale et la phase folliculaire, et avec une ovulation efficace, etc. Mais effectivement, si on est en désir de grossesse, qu'on voit qu'on galère un peu à retrouver un cycle normal et qu'on a encore, par exemple, des tétés nocturnes ou des tétés toutes les 2 heures, on peut essayer, si ça fait partie de notre projet d'allaitement et que le projet d'allaitement face au désir de grossesse... passe après, entre guillemets, voilà. Si le désir de grossesse dépasse le projet d'allaitement, on peut éventuellement, dans ces cas-là, se dire, par exemple, faire un sevrage nocturne ou ne plus passer à un allaitement à la demande, mais passer sur des TT à des heures fixes tout en en négociant avec l'enfant selon son âge, etc., tout en passant par les étapes nécessaires pour un sevrage, à la fois pour l'enfant qu'on va sevrer, mais aussi pour que ça se fasse de manière sécuritaire pour les seins et pour la glande mammaire de celle qui allait.
Tout à fait. Oui, retenez que si jamais vous diminuez le nombre de tétés... toujours fonction de l'âge, etc., mais pensez à vos seins, quoi. Enfin, il ne faut pas que vous vous engorgiez non plus, donc faites ça pas du jour au lendemain, si on était bébé tété 2 heures par jour, on n'arrête pas du jour au lendemain, en tout cas pas s'en tirer en même temps, sans faire réduire tranquillement pour ne pas se retrouver avec une bonne mastite qui en plus va mettre le bazar dans votre courbe de température parce que vous aurez de la fièvre.
C'est ça, et puis qui risque de mettre en danger une future lactation pour un deuxième enfant.
Ouais, exactement.
Donc, il faut se faire accompagner dans tous les cas par un professionnel de l'allaitement pour le sevrage et mesurer effectivement l'importance du désir de grossesse au-delà du projet d'allaitement et dans quelle mesure il est possible que l'allaitement ait encore une influence sur la fertilité ou pas.
Ok. Bon, écoute, je pense que c'est assez clair, tout en n'étant pas un truc qui donne des réponses très évidentes. Et en tout cas, on ne peut pas normer ces réponses pour que ça convienne à toutes les mères. Mais ça permet de, éventuellement, voilà, de savoir où on en est, déjà de comprendre comment ça fonctionne, parce que le mieux, c'est quand même de savoir où est-ce qu'on va. Et voilà, ça vous donne aussi quelques petits tips pour essayer de comprendre comment fonctionne votre cycle et pour appliquer ce qu'on vient d'énoncer. À vous, à votre situation avec cette histoire de température et la glaire cervicale que vous pouvez observer. Très bien. Merci Julie. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ou ça va ?
Non, je pense que ça devrait être pas mal déjà. Ça fait beaucoup d'informations.
C'est beaucoup d'informations. Mais je pense que j'ai récapitulé à chaque fois.
Non, oui. Bon.
Parfait. Eh bien... On reste sur ça. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, etc., n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis surtout, voilà, retenez que c'est du cas par cas et que ce cas par cas, c'est dépendant d'une femme à l'autre, mais c'est aussi dépendant pour vous d'un postpartum à l'autre. Donc, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça la première fois que ça se passe forcément comme ça la deuxième. Prenez le temps, en fait, d'observer les signes pour savoir où vous en êtes. Et puis surtout, bah voilà, respectez vos projets en fonction de ce qui est le plus important pour vous à un instant T. Et bah, vous faites vos choix bien comme vous voulez.
Exactement.
Ok. Merci beaucoup Julie. Et puis bah, j'espère que cet épisode pourra aider à tous et à toutes. À très bientôt dans Milkshaker.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Long drive, crazy, 'cause believe